Alors bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, bienvenue en ce jeudi 20 octobre 2020 pour cette autre bénédiction matinale. On espère que vous allez bien et que vous aurez une merveilleuse journée dans la présence de Dieu. Alors on continue aujourd'hui notre étude débutée il y a maintenant 18 leçons. C'est 18 leçons mais plus de séances que cela, puisqu'on va faire notre deuxième séance sur Israël sous la gouverne de Josué. Donc, on a vu la semaine dernière la gouverne de Moïse sur Israël, notamment à la sortie d'Égypte et au passage de la mer Rouge. Et on s'est projeté 40 ans plus tard, après le périple et le pèlerinage plutôt dans le désert. 40 ans plus tard, maintenant sous la gouverne de Josué, alors qu'il amène le peuple, dirigé par Dieu bien entendu, mais il amène le peuple dans la conquête de Canaan, de la terre promise. Alors le verset qui sert de réflexion pour aujourd'hui, Hébreux 11, le verset 30, Hébreux 11, verset 30, pour ceux qui voudraient lire ou relire le contexte historique et les passages qui s'y relient. Ça serait donc dans Josué au chapitre 5, les versets 13 et 15, Josué 5, 13 et 15, et puis Josué 6, les versets 1 à 21. On ne les relira pas aujourd'hui, puisqu'on a pris le temps de les relire. Je prendrai juste quelques instants après la prière et la lecture pour relater un peu les faits historiques de la conquête de Jéricho, le processus à travers lequel cela s'est fait. Donc, prions, et après ça, on débute pour ce matin. Alors, Seigneur, nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes encore aujourd'hui d'étudier ta parole, de plonger nos regards dans celle-ci et d'être abreuvés, nourris et puis instruits par ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu trouves chez nous une terre qui t'est propice, une terre qui a été adéquatement préparée, dépourvue, Seigneur, de toute mauvaise herbe, de toute épine, de tout ce qui viendrait pour voler quoi que ce soit dans cette parole, mais que nous puissions, au contraire, recevoir avec joie et avec anticipation ta parole et bâtir sur elle. Alors, merci de pourvoir à ce moment. Merci de pourvoir à l'onction nécessaire et merci de bénir nos frères, nos sœurs et toute personne qui se joindrait à nous pour ces études. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus et tout le monde dit Amen. Alors je lis pour vous Hébreux 11, le verset 30. Je vais le relire deux ou trois fois simplement pour que ça rentre bien dans notre pensée. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Je répète, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Alors, je vous rappelle le contexte qu'on a bien énuméré ou bien partagé hier. On n'est plus à l'époque donc de Moïse. Moïse est mort. Le peuple l'a pleuré, n'a pu découvrir son corps nulle part puisque c'est Dieu qui s'en est chargé, tout simplement parce que Dieu craignait qu'on ne prenne le corps de Moïse comme l'occasion d'idolâtrer donc cet homme. Oui, leader. Hors pair au niveau de son peuple et instrument entre les mains de Dieu pour la liberté de son peuple, mais pas pour autant une déité ou un Dieu. Donc, notre Seigneur ne partage pas sa gloire et assurément tenait à ce que le peuple reste loin des pratiques idolâtres qu'on pouvait trouver dans la région de l'époque. Donc Josué, qui était son bras droit depuis déjà 40 ans, va prendre sa suite et Dieu va amener Josué avec le peuple, non plus à traverser la mer Rouge cette fois-ci, mais à traverser le Jourdain pour pénétrer dans le pays de Canaan, en Judée, et pour s'emparer de toute la contrée. Et la première ville qu'ils vont rencontrer, c'est la ville de Jéricho. Dieu va dire à Josué comment procéder à la bataille, et c'est une stratégie de guerre qui est avant-gardiste, voire farfelue pour tous les experts en arts militaires. En fait, Dieu va dire à Josué, tu vas prendre l'Arche de l'Alliance, qui était là où Dieu faisait éclater sa gloire, qui était une espèce de cube avec deux bâtons sur les côtés qui permettaient de soulever ce meuble, soulever cet objet, et porté par quatre lévites ou sacrificateurs. Donc Dieu va lui dire, tu vas le mettre au milieu du camp, et devant l'arche, tu vas placer sept trompettes, à jouer bien entendu par des lévites ou des sacrificateurs. Devant ces trompettes, tu vas mettre une partie de l'armée, et derrière ces trompettes, tu vas mettre donc l'arrière-garde. Donc la trompette et l'arche de l'Alliance, par conséquent, ou les trompettes, les sept et l'arche de l'Alliance, se trouvaient au milieu du camp. Et Dieu va dire, pendant 7 jours, vous allez tourner autour de la ville de Jéricho, mais vous ne l'attaquerez pas. Plus encore, vous ne parlerez pas. Pendant les 7 jours, vous tournerez, en fait pendant 6 jours, vous tournerez une fois par jour. Puis vous rentrerez dans vos tentes et on recommencera le prochain jour. Donc le premier jour, ils sont sortis, ils ont effectivement tourné une fois et ils sont rentrés en tout silence au niveau du peuple, hormis les trompettes qui retentissaient et qui jouaient à tue-tête qui étaient jouées à tue-tête par les sacrificateurs. Deuxième jour, même chose, jusqu'au 6e jour. Puis, le 7e, Dieu va leur dire, le 7e jour, vous tournerez 7 fois. Et une fois que vous aurez fait 7 tours de la ville, à ce moment-là, le peuple se mettra à crier et les murs, les murailles vont tomber. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Le 7e jour, le peuple va marcher 7 fois autour de Jéricho, et au signal donné par Josué, vont se mettre à pousser des cris, les murailles vont trembler, vont tomber, et Israël, les Hébreux, vont s'emparer de Jéricho dans une grande et mémorable victoire. Qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu tout d'abord que par rapport au positionnement des trompettes, des 7 trompettistes et de l'arche qui était en plein centre de l'escadron qui tourne autour de la ville. Et on a rappelé que la trompette était un signal qui accompagnait toujours une convocation solennelle avec Dieu. Lorsque le peuple était appelé à un jeûne, lorsque le peuple était appelé à se lever pour marcher, lorsque le peuple devait recevoir des oracles de la part de Dieu, il y avait toujours des trompettistes qui sonnait le rassemblement et qui annonçait cette rencontre unique avec l'Éternel. Donc, on voyait hier à travers ce symbole que la foi va imposer une proclamation de la Seigneurie de notre Dieu et de placer notre Dieu au centre de notre activité chrétienne. Et on se disait, nos actions ne suffisent pas, il faut que nos actions soient accompagnées de paroles pour expliquer ce qui est fait et pourquoi c'est fait. Par la suite, on a vu un deuxième point. On a vu que hormis le son de la trompette, le cortège devait donc tourner une fois par jour autour de la ville de Jéricho en silence. Dieu va imposer une méthodologie. Ici, c'est de tourner un certain nombre de fois et en silence. Par conséquent, l'enseignement pour nous, c'est donc effectivement que notre foi doit se soumettre à la méthodologie divine. Et enfin, hier, on a vu qu'on va répéter le stratagème pendant 6 jours consécutifs. Dieu aurait pu faire en sorte qu'une seule journée suffise. Il aurait pu en faire en sorte qu'on ne tourne pas du tout autour de Jéricho, puisque cette méthodologie n'a pas été employée dans toutes les villes conquises, mais ça l'était de façon particulière pour Jéricho. Alors non seulement il faut apprendre à se soumettre à la méthodologie de Dieu, mais de surcroît à cela, apprendre aussi à se soumettre au temps et au rythme de Dieu. Dieu va dire, je veux que vous tourniez une fois, puis je veux que vous tourniez 7 fois. Donc le peuple devait ne pas questionner ni le temps, ni la méthodologie, ni la durée que prendrait donc cette délivrance ou que prendrait cette victoire. Pour nous aussi, la foi impose de se soumettre au temps et au rythme de Dieu. Aujourd'hui, on voit le 4 à 7, des points 4 à 7. Donc, on est dans la deuxième partie de cet enseignement. Quatrième point, donc. Le 7e jour, le peuple est appelé à tourner 7 fois autour de la ville et toujours en silence. Alors, bien sûr, ils se trouveraient parmi eux. Peut-être que si nous, on y avait été, ou on avait été là, on aurait posé des questions, à savoir, mais pourquoi tu nous fais tourner une fois par jour, et là, le 7e jour, tu veux nous faire tourner 7 fois. Pourquoi changer les choses? Alors, la foi va imposer de s'adapter au plan de Dieu. Parfois, le plan de Dieu n'est pas uniforme, dans le sens où il peut avoir une méthodologie aujourd'hui, mais demain, cette méthodologie pourrait changer. Le verset qu'on pourrait prendre à cet effet se trouve dans Jean 4 au verset 34 qui nous dit « Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » De faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus qui dit ça à propos de son Père, à propos du mandat qui lui a été accordé, qui lui a été délivré en tant que sauveur et en tant que 100% humain aussi. Donc pour nous, on doit à l'instar de Jésus se soumettre au plan divin pour nos vies et ne pas adapter le plan de Dieu à nos prérequis, à nos demandes, à notre sagesse, à notre connaissance, mais plutôt de plier tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons au plan de Dieu et non pas l'inverse. Donc, la foi va imposer de s'adapter au plan divin. 5e point. À la fin du 7e jour et ultime jour, Josué va donner la directive de crier. Le peuple attend les directives de Josué. On l'a vu dans les passages de Josué 6, notamment, lorsque Josué va dire « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, il ne sortira de votre bouche aucun mot, jusqu'au jour où je vous dirai « Poussez des cris, alors vous pousserez des cris. » Ça, c'est dans Josué au chapitre 6, le verset 10. Ça veut donc dire que le peuple devait regarder vers Josué et recevoir de Josué des instructions par rapport à comment faire, quoi faire, quand le faire. Et ça, c'est un rappel pour nous que la foi va imposer aussi de se soumettre au leadership que Dieu a instauré sur nos vies. Dans Hébreux 13, le verset 17, c'est très clair, on nous dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Donc, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, du respect, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, pour qu'ils fassent leur travail avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne serait pour vous d'aucun avantage. Alors ici, il y a la partie du peuple qui doit être soumis à Dieu. Assurément, vous me direz, ben, on doit être soumis à Dieu, effectivement. Mais Dieu utilise des hommes. Et dans ce cas-ci, après avoir utilisé Moïse, Dieu a décidé à la mort de Moïse, à la suite de Moïse, puisqu'il lui avait interdit de rentrer dans la terre de Canaan, dans la terre promise, il avait préparé un leader qui, lui, à son tour, deviendrait le chef d'état-major, le chef de l'armée d'Israël, et qui conduirait Israël à prendre possession de Canaan. Assurément, un moment difficile dans la vie de Josué. Assurément, un moment stressant dans la vie de Josué. Imaginez un peu, il suit ou il continue après un leader emblématique, premier leader de l'histoire d'Israël, après le libérateur et celui qui a mis en déroute l'Égypte. Voilà qu'il meurt et on a un jeune, entre guillemets jeune, parce que Josué est maintenant âgé de 80 ans, mais un nouveau, un néophyte, en tant que leader pour le peuple. Et Dieu va dire, vous allez obéir à Josué et vous allez suivre ses indications parce que c'est à travers lui que je vais vous guider. Dans Hébreux, donc dans le Nouveau Testament, on reprend cette même notion en exhortant le peuple à avoir une soumission et une déférence envers les leaders que Dieu établit. Par contre, les leaders eux-mêmes ne sont pas en liberté totale de faire ce qu'ils ont envie de faire, comme ils ont envie de le faire. Dans 1 Pierre, au chapitre 5, lorsqu'on regarde les versets 1 à 4, la Bible nous dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, non, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. » Alors ici, Pierre, dans son exhortation, vient faire un contrebalanc. Dans le premier passage qu'on a vu d'Hébreux, on disait que la foi imposait donc de se soumettre à la ligne de commandement, au leadership que Dieu va susciter, donc à l'homme ou aux hommes en autorité sur le peuple de Dieu. En contrepartie, Pierre, qui est lui-même un leader dans le peuple d'Israël, va dire, regardez, il y a une manière aussi de conduire le peuple. Premièrement, on ne doit pas conduire le peuple en essayant de faire un gain personnel. On ne conduit pas le peuple pour ses propres désirs ou pour son propre avantage. De surcroît à cela, on ne conduit pas le peuple avec une cravache et puis avec un fouet. On conduit le peuple plutôt en étant un modèle pour le troupeau, un modèle que les gens voudront suivre. Un peu la pensée de Paul lorsque Paul va dire « Soyez mes imitateurs comme moi-même je suis imitateur de Christ. Je ne peux forcer personne à m'imiter. Par contre, je vous conseille, faites ce que moi je fais puisque moi-même je suis en train d'imiter Christ. » Alors il y a un contrebalanc qui est mis. La soumission ne peut pas être imposée. La soumission peut être enseignée, la soumission peut être exhortée, mais la soumission ne peut pas être imposée. En fait, quand on impose une soumission à quelqu'un, la plupart du temps, ça amène des tensions, des dissensions, voire une rébellion éventuelle. Plutôt la technique qui est prônée par Pierre, mais qui est aussi tout à fait biblique, c'est que le leader soit un exemple à suivre, un peu comme Jésus qui, à la veille de sa mort, va délaisser sa position de leader pour aller prendre la place de l'esclave le plus vil de la maisonnée pour laver les pieds de ses disciples. Il va leur dire, comprenez ce que je vous ai fait, et après, quand je ne serai plus là, faites-le Faites-le les uns envers les autres. Donc, de s'abaisser pour servir les autres. Jésus leur dit, je suis en train de vous donner un exemple que vous pourrez suivre par la suite. Donc, Paul va dire, soyez soumis. Dans Hébreux, si Paul est effectivement l'auteur aux Hébreux, on en convient que le nom n'est pas inscrit, mais la plupart chercheurs pensent que c'est effectivement Paul qui est à la base du livre aux Hébreux ou de l'épître aux Hébreux. Donc, l'auteur aux Hébreux, ça serait mieux dit, va préconiser une soumission envers le leadership et Pierre va venir faire un contrebalan en disant, par contre, vous les leaders, ne soyez pas des dictateurs. Peu importe qui est en leadership, il nous faut être soumis. Peu importe comment est exercé ce leadership, il nous faut être soumis. On n'a pas dit que si c'est un bon leader, tu le suis. Si c'est un leader qui te plaît un peu moins, tu ne le suis plus. Si c'est un leader qui fait tout ce que tu veux, tu le suis. Et si c'est un leader qui fait des choses différentes que ce que toi tu aimes, ou avec une méthodologie différente, avec une pensée différente, avec un temps différent, avec un style différent, ben là, en ce moment, tu peux garder ta liberté de te soumettre ou non. Non, la Bible nous dit, soyez soumis au leader que Dieu vous donne. Et après ça, Dieu parle aux leaders en leur disant, mais faites attention. Votre rôle n'est pas de maltraiter le troupeau, mais de servir d'exemple, afin que lorsque le souverain pasteur, lorsque le souverain leader arrivera, il puisse voir un peuple qui a grandi et qui a fonctionné dans toute la portée qui se devait. Donc ça, c'était le cinquième point. La foi impose de se soumettre à toute la ligne de commandement, donc toute la ligne de leadership que Dieu suscite sur son peuple. Le point 6, lorsqu'on regarde le verset 20 dans Josué 6, le verset 20 nous dit « Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. » Au son des trompettes, le peuple va pousser des cris. Au son de la trompette, tout le peuple va se mettre à crier. C'est pas une partie, ce ne sont pas simplement les Lévites, ce n'est pas simplement ceux qui sont devant les trompettistes, donc devant l'arche, ce n'est pas simplement ceux qui sont en arrière-garde, c'est l'ensemble du peuple qui doit se mettre à crier, qui doit se mettre à pousser des cris afin que la muraille tombe. La foi va imposer l'unité de toutes les composantes du corps de Christ. Le corps de Christ fonctionne en unité, pas en division, pas en électron libre. Le corps de Christ doit fonctionner de façon unie et la foi devrait imposer chez nous l'unité et non la division. Il y a une chose qui est terrible aux yeux de Dieu, il y a une chose qui est décriée dans la parole de Dieu, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, que Dieu a horreur, et c'est ce qui cause des divisions. Dieu va même dire de se tenir loin de ces personnes qui créent des divisions et de ne pas les considérer comme des frères. Donc lorsque quelqu'un travaille au sein de l'Église et qu'il fractionne l'Église, qu'il fractionne le corps de Christ, ce qu'il fait est tout à fait répréhensible, ce qu'il fait est tout à fait détestable aux yeux de Dieu. Il aime peut-être l'individu encore, il aime toujours le pécheur, mais il déteste l'acte de division, l'acte de scission que provoque cet individu. Et il nous dit au peuple de Dieu de ne pas se tenir et de ne pas considérer cette personne qui provoque des divisions comme des frères. Donc la foi doit imposer chez nous une unité avec tout le corps de Christ. Lorsqu'on regarde dans Philippiens, Philippiens au chapitre 3, les versets 15 et 16. Philippiens 3, les versets 15 et 16, la Bible nous dit, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, Et vous, si vous êtes en quelque autre point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Combien j'aime ce verset. Ces versets nous disent, regardez, nous pouvons effectivement avoir des points de divergence. Il peut y avoir parmi nous des pensées qui ne sont pas similaires. Toutefois, au point où nous en sommes rendus, marchons d'un même pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut avoir la maturité nécessaire pour marcher d'un même pas. Il nous faut avoir la maturité pour passer outre nos divergences et être capable de marcher d'un même pas. Jamais, 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 la division n'est encouragée, la division n'est acceptée dans la parole de Dieu. Donc, la foi impose l'unité dans toutes les composantes du corps de Christ. Dernier point sur ce passage, dans les versets 20 et 21, je relis pour vous. Donc le peuple, on l'a déjà lu le verset 20, mais je le répète. Le peuple poussa des cris, les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville. Hommes, femmes, enfants, vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Les murs de la ville tombent et les hommes de guerre avancent chacun droit devant lui en direction de la ville, dévoient par interdit tout ce qui se trouve sur leur chemin. Ça veut dire que chacun sait ce qu'il doit faire et il avance de façon droite, de façon rectiligne vers la ville et il dévoue par interdit, donc il tue tout ce qui se tient devant lui et il ne prend rien pour lui. Donc il n'y a aucune richesse de Jéricho qui devait être prise par les conquérants qui étaient les Hébreux. Et c'est ce qui va conduire à une des pires défaites d'Israël dans la petite bourgade d'Haï, puisque lors de la conquête de Jéricho, on sait tous qu'il y a quelqu'un qui va prendre des pièces d'or et un manteau et qui va aller le cacher dans sa tente sous le sol. Et Dieu va dire, mais j'ai dit qu'on devait dévouer par interdit toute cette ville, que toutes les richesses devaient servir au pactole qui sert au culte à l'Éternel, donc de prendre tout l'argent, l'or, les pierres précieuses et tout ça, et l'amener dans le trésor de la maison de l'Éternel. Et pourtant, quelqu'un a fait contraire à ça. Et parce qu'un seul homme avait fait cette faute, tous ont dû payer lors de la prochaine bataille avec une cuisante défaite contre le village de Haï. La foi impose des convictions et des résolutions qui sont fermes. La foi doit imposer une intégrité toute particulière. Si les gens du monde, dans certains cas, peuvent ne pas avoir de valeur ou peuvent avoir des valeurs assez oscillantes, qui varient, il se trouve malgré tout des hommes dans le monde, non pas des chrétiens, qui ont des valeurs et une intégrité de haut niveau. Il devrait en être au minimum autant pour tous les chrétiens. Nous devrions constamment vivre afin d'avoir une vie intègre devant Dieu et devant les hommes. Je dis parfois, et ça peut frustrer certaines personnes, logiquement, un chrétien ne devrait pas accepter de travailler au noir. Un chrétien devrait être intègre et rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus payait ses impôts. Et ça, c'est probablement un des premiers points qu'on doit apprendre. Être intègre au niveau de l'administration, au niveau du gouvernement, au niveau de ce qui nous est imposé par la loi. Et être intègre à un tel niveau qu'on ne peut pas nous reprocher d'être des hors-la-loi, qu'on ne peut pas nous reprocher de faire les choses sans intégrité. Et quand j'ai ces convictions doivent être fermes et immuable, mes convictions par rapport à Dieu, mon engagement par rapport à Dieu, mon dévouement par rapport à Dieu, mes responsabilités dans les tâches qui m'incombent devant Dieu, je dois les remplir avec intégrité, avec beaucoup de dévotion, de dévouement et avec la plus grande honnêteté. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, le verset 58 que vous connaissez tous, 15-58 nous dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Soyez fermes, donc soyez remplis de convictions et de résolutions qui sont immuables. Travaillez de mieux en mieux, travaillez toujours pour avoir un meilleur rendement, une meilleure qualité dans votre façon de faire et un meilleur produit dans ce que vous amenez. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et voilà ce que nous avions pour ce matin. Alors, je répète les 7 points que nous avons vus, 3 hier. 1. La foi impose la proclamation de la Seigneurie de Dieu au centre de toute notre activité chrétienne. 2e point. La foi impose de se soumettre à la méthodologie de Dieu. 3e point hier. La foi impose de se soumettre au rythme et au temps de Dieu. Le point numéro 4 aujourd'hui, le fait qu'on avait dit une fois par jour et le 7e, Dieu décide qu'on fait 7 fois le tour le 7e jour, donc la foi impose de s'adapter au plan de Dieu. Le point numéro 5, les gens doivent se mettre à crier à un seul moment, lorsque Josué va en donner l'ordre, donc la foi impose de se soumettre à toute la ligne de commandement, donc tout le leadership que Dieu suscite. Le point numéro 6, au son des trompettes, le peuple pousse des cris. Donc, la foi impose l'unité de toutes les composantes du corps de Christ. C'est au moment où Josué donne l'ordre de crier, où tous, mais tous, l'intégralité de la nation se met à pousser des cris. La foi va imposer donc l'unité de toutes les composantes du corps de Christ. Et le point numéro 7, le dernier point pour aujourd'hui, la foi impose des convictions et des résolutions ferme. Les gens devaient, quand les murs tombaient, les gens devaient aller droit devant eux, vers la ville, et devaient respecter les préceptes, les pensées, et ce que Dieu avait dicté pour cette conquête de Jéricho. Il y a des moments où les gens ont pu prendre les trésors pour eux-mêmes. Il y a des endroits où ils vont attaquer des villages, des contrées, des villes, et Dieu va dire, mais prenez ce que vous avez pour vous. Mais dans ce cas-ci de Jéricho, Dieu va dire, et c'est probablement pour tester leur intégrité et pour leur démontrer que parmi eux, il se trouve aussi des gens qui manquent d'intégrité et toute l'incidence que ça peut avoir sur le peuple, Dieu va leur dire, mais à Jéricho, vous ne prenez rien du tout. Et lorsqu'il y en a un qui prend quelque chose, ben on se rappelle la défaite qui va suivre par la suite. Donc la foi impose des convictions et des résolutions qui doivent être fermes. Alors prions. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour cet autre exemple qu'un homme important des Écritures devient pour nous. Donc merci pour Josué, merci pour la vie qu'il a menée, et merci pour les rapports que tu nous en donnes jusqu'à aujourd'hui. Nous prions Seigneur que lorsque tu cherches parmi nous des hommes et des femmes, tu en trouves Seigneur dans le calibre de Josué, mais tu trouves aussi parmi nous un peuple qui ressemble à ce peuple d'Israël afin de bien faire les choses dans cette conquête de Jéricho. On prie, Seigneur, qu'il ne se trouve parmi nous personne qui mette en danger le peuple par les divisions, par les querelles, par l'insoumission qu'il voudrait insuffler parmi nous, ou même, Seigneur, par les failles qu'il susciterait dans ton peuple en étant nullement intègre à ta parole. On sait, Seigneur, que cet homme qui, Achan, qui a pris des richesses pour lui, a amené la mort non seulement pour les gens qui ont péri lors de la prochaine bataille contre Haï, mais aussi, Seigneur, pour sa famille entière qui a péri suite à son propre et unique péché. Alors, nous prions, Seigneur, d'être des modèles pour tous, tels que Pierre nous invite à l'être, tels que ta parole nous exhorte à l'être, que nous soyons des modèles dans quoi faire, dans comment le faire, dans l'attitude, dans les paroles qui sont nôtres, et non pas, Seigneur, des hommes qui, par leur orgueil, qui, par leur avarice, qui, par leur trop plein d'amour propre, puisse, Seigneur, amener le danger dans le peuple. Alors nous prions que tu nettoies, que tu sanctifies, que tu nous révèles aussi, Seigneur, ces secteurs de notre vie où nous sommes en danger et où nous menons les gens qui nous entourent aussi vers le danger. Si la division s'est immiscée parmi nous, si l'insoumission s'est immiscée parmi nous, si la scission a commencé à ronger les liens qui nous unissaient, nous nous élevons contre cet esprit de division, nous nous élevons contre ces tentatives de scission que l'ennemi a entreprises, et nous te demandons, Seigneur, de solidifier nos liens et de nous permettre, Seigneur, de veiller à ce que ces liens qui ont été établis par ton Saint-Esprit soient fortifiés, solidifiés à chaque jour davantage. Nous t'avons prié avec cette assurance que tu nous aimes, que tu prends soin de nous et que tu es avec nous à tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et tout le monde dit Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. J'espère que vous avez été bénis. On se retrouve demain matin pour la dernière bénédiction de cette semaine. Et puis, je sais qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui ont hâte d'entendre parler du personnage de demain. Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil dans le prochain verset et vous comprendrez que nous parlerons demain de Rahab, la prostituée, qui a marqué son époque et qui est un exemple pour nous encore aujourd'hui. Alors que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous et à demain!